Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, quand des militants écologistes appellent à la désobéissance civile. Nouvelle étape dans la mobilisation pour le climat. Depuis ce matin, manifestations et blocages dans le quartier de la Défense à Paris contre la République des pollueurs. Désobéissance civile, pourquoi et comment? L'invité de ce journal sera Jean-François Julliard de Greenpeace. À la veille de l'acte 23 des Gilets jaunes, l'avertissement de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain, tout particulièrement à Paris. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars.
Le 16 mars, c'était le week-end où les Champs-Élysées avaient été saccagés. 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. À propos des Gilets jaunes, en général, pas les casseurs, une nouvelle étude sur les premières manifestations, le rejet des 80 km/h venait en tête des revendications avant même la hausse de la taxe carburant. Sur les routes, aujourd'hui, couleur orange au plan national et même rouge, tout le monde est en vacances. Où en est le réseau des radars dégradés ces dernières semaines? Nous essaierons d'en savoir plus avec Delphine Evenou. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Notre-Dame de Paris, 4 jours après l'incendie, encore des inquiétudes.
Oui, avec 3 priorités. Stabiliser les pignons, vous savez, ces grands triangles de pierre qui surplombent la cathédrale. Il faudra aussi démonter au plus vite l'échafaudage et bâcher la cathédrale en cas de pluie.
Et les derniers tableaux encore dans la cathédrale seront sécurisés dans la journée, dit le gouvernement. Dans ce journal encore, l'attention à Londonderry, Irlande du Nord. L'histoire d'une jeune femme sans le sou qui a floué, arnaqué les New-Yorkais les plus branchés. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
À température digne d'un mois de juin.
Effectivement, les maximales cet après-midi seront largement supérieures aux moyennes de saison dans la plupart des régions, comprises entre 21 et 27 degrés. En revanche, elles ne dépasseront pas la barre des 20 degrés près de la Méditerranée. Et puis côté ciel, prévoyez des averses orageuses dans un grand quart nord-est, des nuages dans le sud-ouest et un grand soleil partout ailleurs.
Et d'autres détails agréables avec vous. Tout à l'heure, nous écouterons également l'hommage à Jacques Higelin rendu hier au printemps de Bourges. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Un suicide tous les 4 jours dans la police depuis le début de l'année. On vous a déjà donné ce chiffre effarant, en sachant bien sûr qu'il est toujours très difficile de faire la part du privé et du professionnel, mais il ne diminue pas ce chiffre, car les drames se succèdent. Encore 2 hier, tous les syndicats de policiers appelaient à des rassemblements en fin de matinée, 11h30, midi, avec le soutien du grand patron de la police nationale. Éric Morvan appelle les cadres à s'associer à son rassemblement. Quelle affluence, un coup d'œil à la manifestation à Lyon, Christophe Vincent, où l'on a entendu des récits très pénibles à écouter.
Il avait 38 ans et il était père de 4 enfants. On l'a retrouvé pendu chez lui dans l'Ain le 5 avril. Ses collègues de la BAC de nuit ont assisté à ses obsèques vendredi et ils se sont réunis ce matin devant le commissariat du 3e. En tout, une trentaine de fonctionnaires, dont un commissaire, silencieux et meurtri par ses suicides qui ne baissent pas malgré 3 plans de prévention. Sébastien Tillet est secrétaire pour le Rhône du syndicat Unité SGP Police.
Auparavant, nous avions des amicales. Avec lesquels nous pouvions organiser des repas avec nos familles, avec nos enfants. Tout ça, ça s'est délité dans le temps, ça a disparu. Et ces moments de convivialité étaient relativement importants parce qu'ils permettaient effectivement d'être l'exutoire, la soupape, pour discuter entre copains de diverses interventions et puis de nos familles tout simplement, nous retrouver ensemble.
La vie de famille malmenée par les samedis des Gilets jaunes, le prochain G7 à Biarritz et la Coupe du Monde de foot féminin. On a un week-end de repos toutes les 6 semaines, disent les policiers, ce n'est pas tenable. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et les policiers pourraient être à nouveau éprouvés ce week-end, en tout cas en croire leur ministre Christophe Castaner. Est-ce une façon de dissuader certains manifestants de se déplacer ou bien est-ce l'application du principe de précaution? En tout cas, un mois après les saccages sur les Champs-Élysées, le ministre avertit à la veille de l'acte 23 des Gilets jaunes.
Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain. Dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux par exemple, mais en particulier, tout particulièrement à Paris. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émeute », sous-titré « Appel à la révolution, Black Bloc et Gilets jaunes ». On peut donc s'attendre à ce que samedi, les ultras cherchent une fois de plus à créer le trouble, à s'organiser en Black Bloc pour affronter les forces de l'ordre, à se livrer aux dégradations et à la violence qui est leur seul horizon, et d'ailleurs au fond leur seul point commun, peut-être même Est-ce leur seule revendication? Je n'en dirai pas plus, mais ces éléments suffisent à montrer qu'à nouveau la menace est sérieuse et appelle un dispositif renforcé.
Plus de 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés parmi les secteurs interdits à la manifestation à Paris, les abords de Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées et la Concorde. Christophe Castaner dit aussi son inquiétude pour la manifestation du 1er mai qui pourrait être également et peut-être plus encore infiltrée par les casseurs selon le ministre. À propos des gilets jaunes, une nouvelle étude cette semaine sur ce qui a précisément déclenché le mouvement, l'étincelle avant le 17 novembre. Rémi Brancato, plus encore que la hausse des taxes carburants, les 80 km/h ont incité les premiers gilets jaunes à se rassembler.
Le prix du diesel qui grimpe à la pompe, ce n'est pas forcément la première source de colère, selon cette étude de l'Institut des politiques publiques. Elle s'appuie sur des groupes Facebook et une carte des blocages prévue le 17 novembre dernier. Résultat, les départements qui comptent le plus de véhicules roulant au diesel n'ont pas été les plus mobilisés. C'est ce qu'explique l'économiste Benoît Schmutz, l'un des auteurs.
Les territoires qui se mobilisent le plus sont les territoires qui ont connu une plus grande densité de routes qui sont passées à une vitesse maximale de 80 km/h. Également, un fait intéressant concerne les distances domicile-travail. Les territoires où les salariés doivent couvrir une plus grande distance sont plus mobilisés.
Cette étude de 1528 groupes sur Facebook permet aussi de questionner les motivations politiques. Les gilets jaunes ont-ils tenté de déclencher un troisième tour de l'élection présidentielle? Là aussi, ce n'est pas évident.
La mobilisation frappe notamment les zones à fort taux d'abstention ou ayant voté de façon plus importante qu'ailleurs pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen. En réalité, ces corrélations disparaissent dès qu'on prend en compte le taux de chômage ou des inégalités salariales.
Mais ce travail ne porte que sur le premier week-end de mobilisation et le mouvement depuis s'est transformé, structuré, avec par exemple un regroupement des pages Facebook par département.
Rejet des 80 km/h et dégradation des radars, deux phénomènes qui ont marqué l'hiver sur les routes. Et sur les routes, il y aura du monde. En ce week-end de Pâques, toutes les zones sont en vacances à partir de ce soir. C'est orange aujourd'hui dans le sens des départs et même rouge en Île-de-France. Les comportements se sont relâchés depuis que beaucoup de radars ont été dégradés. Delphine Evenou, y a-t-il autant de radars dégradés? Y a-t-il eu des réparations? Est-ce qu'on a des informations précises? C'est souvent difficile.
Le dernier chiffre dont on dispose, c'est celui qui a été donné par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, début mars. 75% de radars dégradés ces derniers mois. Depuis, certains ont été réparés, mais d'autres aussi de nouveau abîmés. Impossible, vous le disiez, d'avoir un aperçu précis et en temps réel de la carte des radars. Emmanuel Barbe, le célèbre délégué interministériel à la sécurité routière, assume ce flou.
La sécurité routière se refuse à communiquer sur le nombre des radars détruits. C'est pas un désir de cacher de l'information, mais nous avons deux craintes. D'abord qu'il y ait des concours de destruction de radars, et on l'a vu quand il y avait les voitures qui brûlaient dans notre pays. Et puis, deuxièmement, je voudrais pas laisser penser à nos concitoyens qu'il n'y a plus aucun radar qui marche, parce que c'est tout simplement pas vrai. Il y a encore beaucoup de radars qui marchent, on en a réparé beaucoup.
Ne vous occupez pas des radars et des amendes, soyez juste prudents, ajoute Emmanuel Barbe. D'autant que la météo est bonne ce week-end et les conducteurs de deux roues en particulier se sentent trop en confiance, relâchent la tension. Et puis un conseil avec un chiffre, car je sais que vous êtes attaché au chiffre, Bruno.
82% des auteurs d'accidents mortels sont des hommes. Donc, messieurs, passez le volant à madame, elles conduisent très bien les femmes.
En 2017, 36 personnes sont mortes sur la route le week-end pascal et depuis début 2019, les chiffres de la sécurité routière sont mauvais, repartis à la hausse.
Et voilà, c'est encore de la faute des garçons. Geste de rébellion au fil des semaines, donc lors de cette crise des gilets jaunes. Dans un autre contexte, on note à partir d'aujourd'hui un appel à la désobéissance civile. Il a été lancé il y a quelque temps par 14 associations écologiques, dont les Amis de la Terre et Greenpeace notamment, désobéissance civile à partir d'aujourd'hui pour bloquer la République des pollueurs. Nous sommes avec le directeur général de Greenpeace France dans un instant. D'abord, illustration avec vous, Célia Quiré, vous êtes en direct. Les actions ont commencé ce matin. 2000 militants dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Ils ont bloqué l'accès au bureau de Total, de la Société Générale, du ministère de l'Écologie et d'EDF, Célia.
Oui, bonjour Bruno. Effectivement, ce matin, un peu après 8h30, des dizaines de militants, brassards verts, visages découverts, ont réussi à entrer dans le hall de la tour EDF avec des affiches Macron, président des pollueurs. Ils ont bloqué les entrées, les escaliers, les ascenseurs. Ils ont même isolé des espaces, comme dans les enquêtes policières, avec de grandes bandes de scotch marquées scène de crime climatique.
Enfin, l'inaction gouvernementale, en fait, et la coalition qui est entre le gouvernement et les entreprises climaticites. En fait, il faut savoir que EDF vend beaucoup de, enfin, fait beaucoup d'énergie, mais il n'y a que 10% qui est en renouvelable, le reste est en nucléaire.
Voilà, vous l'entendez, hein, les militants parlent d'un crime contre l'humanité. Alors devant ce blocage, la sécurité d'EDF a décidé de confiner les lieux, aucune sortie ni entrée possible. Fanny Delahalle de l'association Action Non-Violente COP21 estime que ce blocage est réussi pour marquer les esprits.
Une alliance qu'on considère clairement toxique entre Emmanuel Macron, le gouvernement et les grandes entreprises. On s'aperçoit que finalement la politique climatique aujourd'hui, ou plutôt l'anti-politique climatique, elle se décide dans le bureau des grands patrons. Donc ça peut pas aller dans le sens du climat, clairement.
Et en bloquant en même temps le ministère de l'écologie ici à la Défense, l'idée des militants est bien de cibler tout un système, pas une entreprise en particulier, un système responsable de l'inaction climatique pour Alix Mazzouni.
En France, il faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à réaugmenter depuis quelques années. C'est un scandale absolu quand on sait qu'aujourd'hui, il est impératif de rester en deçà de 1,5 degré de réchauffement.
Et une prochaine action pour le climat est déjà prévue le 24 mai. D'ici là, ici à la Défense, les tours, Total, EDF, Société Générale et le ministère de l'écologie sont toujours bloqués, mais dans le calme.
Merci Célia Kiré en direct de ce quartier de la Défense. Et à vos côtés, je vous laisse 3 secondes pour lui passer le micro-casque. À vos côtés, il y a Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Julliard?
Oui, je suis là.
Bonjour, soyez le bienvenu sur France Inter. Désobéissance civile, pourquoi lancer, pourquoi passer à ce stade de l'action climatique et écologique? Désobéissance civile.
Eh bien, parce que aujourd'hui, tout simplement, l'urgence climatique nous l'impose. Aujourd'hui, l'urgence climatique nous impose de tout essayer, de tout tenter. Et ce sont les scientifiques du climat, les experts du GIEC qui nous disent qu'on a globalement entre 10 et 15 ans pour changer le cours des choses si on veut limiter les conséquences du dérèglement climatique, si on veut éviter les conséquences les plus graves du dérèglement climatique. Et donc, pour nous, militants environnementaux, militants du climat, ça passe par tout un tas de modes d'action que sont les discussions habituelles qu'on peut avoir avec les responsables politiques, la production d'expertise, des recours juridiques comme l'affaire du siècle qu'on a lancé avec d'autres organisations, et puis pourquoi pas la désobéissance civile.
Parce qu'à et ça va donné, se manifester faut... comment, Jean-François Julliard?
Là, ça se manifeste déjà aujourd'hui par cette action-là, par le blocage de ces 4 lieux emblématiques de cette collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et puis à l'avenir, ça va se manifester par d'autres types d'actions qui vont être organisées par tout un tas de groupes aujourd'hui. On sent bien aujourd'hui qu'il y a un appétit pour ça. Il y a une envie, notamment au sein des jeunes qui défilent régulièrement et qui marchent régulièrement et qui se mettent en grève pour le climat. Il y a une envie d'aller plus loin, d'avoir des actions plus radicales, plus engageantes, de tout tenter encore une fois pour essayer de contraindre, parce qu'il est vraiment question de ça aujourd'hui, de contraindre le gouvernement à aller plus loin dans son action pour le climat.
On a vu à Londres des militants bloquer la circulation. On a entendu cette semaine dans ce journal un reportage dans le quartier de Marble Arch. Ça peut être la même chose à Paris?
Oui, ça peut être la même chose à Paris. D'ailleurs, Extinction Rebellion, qui est à l'initiative de cette manifestation à Paris, est l'un des soutiens aujourd'hui de ces événements à la Défense. Donc tout est envisageable. Je pense qu'aujourd'hui, les militants réfléchissent beaucoup à quelle est la manière la plus efficace, encore une fois, de convaincre qu'il faut aller plus loin, de convaincre qu'on ne peut pas rester les bras croisés, que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas suffisant parce que les indicateurs utilisés par les scientifiques nous montrent qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire.
Jean-François Julliard, on a tous dans la tête les images de destruction sur les Champs-Élysées il y a un mois. On est dans un contexte inflammable. Est-ce que ce n'est pas périlleux d'utiliser ce concept de désobéissance civile tout de même?
Non, parce que ça fait, vous savez, Greenpeace, ça fait bientôt plus de 45 ans qu'on désobéit pour le climat, pour l'environnement, pour la protection des forêts, pour la protection des océans. On a un long savoir-faire en la matière, on a une longue tradition dans ce domaine-là. On sait comment former les gens, on sait comment expliquer aux participants à ces actions que ce sont des actions profondément non violentes. On sait quels sont les comportements à éviter et ceux qu'il faut mettre en œuvre. Donc on a cette longue expérience et aujourd'hui on est rejoint par les Amis de la Terre à Action non violente COP21. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Ça fait déjà plusieurs heures là qu'on est à la Défense à bloquer 4 tours qui sont énormes. Enfin, ce sont des lieux gigantesques. Et tout se passe bien. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a rien qui est dégradé, qui est cassé. Donc, ça prouve que ce mouvement pour le climat, c'est aujourd'hui mener des actions de désobéissance dans le plus grand respect des biens et des personnes.
Action forcément surprise, un peu comme quand vous intervenez dans les centrales nucléaires. Par exemple, si oui, je vous demande quand et où sera la prochaine action, est-ce que vous me le dites ?
Non, je peux pas vous le dire, mais en revanche, celle d'aujourd'hui, elle était malgré tout annoncée. Et ça, c'est un changement aussi dans l'engagement des personnes à participer à ce type d'action. C'est vrai que d'habitude, Greenpeace n'annonce rien, ni le lieu, ni la date. Là, cette fois, on avait annoncé la date. On avait annoncé plusieurs semaines à l'avance une grande action de désobéissance civile le 19 avril pour bloquer la République des pollueurs. Bien sûr, on n'avait pas donné les lieux précis de ces actions, mais malgré tout, on avait annoncé ça. Et le fait d'annoncer cette date, ça a permis à des gens de participer, de se dire, mais moi aussi, j'ai envie d'aller plus loin. Moi aussi, j'ai envie de participer à ce blocage de la République des pollueurs. Donc là aussi, on sent bien qu'il y a une envie plus forte et un engagement de gens qui, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui n'avaient jamais participé à une action de ce type-là. Donc ça prouve bien que c'est en train de monter.
Merci Jean-François Julliard d'avoir répondu à nos questions et merci à Yves Lehors qui a établi la liaison technique qui nous a permis de vous entendre, ainsi que Célia Kiré. 4 jours après l'incendie à Notre-Dame, il reste 3 points de fragilité majeure sur la cathédrale. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture, pardon, Thibault Lefèvre. Comme promis, vous êtes avec nous. Où sont les 3 points d'inquiétude, Thibault ?
Alors, le chantier prioritaire, ce sont les pignons. Vous savez, ces grands triangles de pierre qui sont perchés à plus de 30 mètres. Ils soutenaient jusqu'à lundi la voûte. Des maçons ont travaillé toute la nuit. Ils ont consolidé le pignon nord qui semble tiré d'affaire. Plus d'inquiétude, en revanche, sur le pignon ouest, celui qui est situé entre les 2 tours. Il penche vers l'intérieur et il y a un réel risque d'effondrement dans la nef. Il faut donc alléger la structure et descendre avec, vous l'imaginez, beaucoup de précautions, les statues. Autre point de fragilité, l'immense échafaudage qui surplombe encore l'édifice. 250 tonnes d'acier qu'il faudra démonter à un moment ou à un autre. Et puis, il va falloir bâcher très vite le trou béant au-dessus de la cathédrale. En cas de pluie, des infiltrations d'eau pourraient fragiliser encore un peu plus le monument, car des pierres tombent toujours dans la nef. Notre-Dame est donc très surveillée. 60 pompiers se relaient jour et nuit et le périmètre de sécurité est maintenu jusqu'à lundi.
Et les tableaux de Notre-Dame qui n'ont pas été abîmés et qui sont encore dans la cathédrale seront sécurisés dans la journée, promet le ministre de la Culture, Franck Riester. Notre-Dame de Paris, une nouvelle émission spéciale que vous propose France Inter et Guillaume Gallienne, un voyage littéraire dans l'imaginaire des cathédrales. Guillaume Gallienne, l'homme qui nous lit les grands textes de la littérature depuis des années sur France Inter, ça peut pas faire de mal. Émission en public et en direct du studio 104 demain à 18h. Notre-Dame de Paris, Guillaume Gallienne, demain en public, en direct, studio 104 de la Maison de la Radio à 18h. L'actualité en bref, d'état raciste et antisémite découvert ce matin sur la façade d'une mairie de Diefenstahl dans le Bas-Rhin. C'est ce que nous disent nos confrères de France Bleu Alsace. L'annonce de l'avocat d'Abdelkader Mera, maître Dupont-Moretti. À vrai dire, cette annonce ne surprend personne.
Oui, je me pourvois en cassation, oui.
Pourvoi en cassation. Hier, en appel, son client a été condamné à 30 ans de prison et à la grande satisfaction des familles de victimes jugées complices des assassinats de son frère Mohamed Mera à Toulouse et Montauban en 2012. Le procès n'a pas été équitable, estime maître Dupont-Moretti, qui rappelle que la première cour d'assises n'avait pas vu de preuve de cette complicité. Dans les minutes qui viennent, nous irons à Londonderry, Irlande du Nord. Le climat y est tendu. L'histoire d'une voleuse en sandales Gucci. Nous testerons le compost en appartement. Nous passerons par Lyon, fin de saison difficile en foot. Et puis, nous écouterons un hommage à Jacques Higelin. Et d'abord donc l'actualité internationale et Londonderry en Irlande du Nord. Accrochage entre des émeutiers et la police hier soir dans le quartier de Cregan. Ce que vous entendez sous ma voix, c'est le son d'une vidéo tournée sur place par une journaliste du Belfast Telegram. Opération de police qui a mal tourné dans ce quartier nationaliste. Ça se passe dans une des villes symboles du conflit en Irlande du Nord, à la veille du week-end de Pâques, pendant lequel le climat est souvent tendu et alors qu'on redoute que le Brexit fragilise le processus de paix. Marina Daras, une femme âgée de 29 ans, journaliste, a été tuée par un coup de feu.
La police nord-irlandaise a été la cible de tirs et de jets de cocktails Molotov au cours d'une opération de sécurité hier soir dans le quartier de Cregan, un quartier qui a bien connu les horreurs des affrontements entre protestants unionistes et catholiques républicains. La police a annoncé qu'elle traitait cet incident comme un acte terroriste et qu'une enquête pour meurtre allait être ouverte, puisque la jeune journaliste nord-irlandaise de 29 ans, Lyra McKee, a été victime d'un tir de balle qui visait la police. Elle a succombé à ses blessures dans la voiture qui l'emmenait à l'hôpital. Arlene Foster, la représentante du parti unioniste nord-irlandais, a rapidement condamné les faits, évoquant un acte insensé et une violence qui n'a pas sa place en Irlande du Nord. Le week-end de Pâques marque un point important dans l'histoire nord-irlandaise, symbole de paix 21 ans après la signature des accords du Vendredi Saint, mais aussi symbole de l'insurrection irlandaise contre le pouvoir anglais. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
En Italie, quand des jumeaux naissent à 2 mois d'écart, récit de l'agence France Presse, ça se passe à Monza, pas loin de Milan. Décembre dernier, le premier jumeau naît grand prématuré. 6 mois, 800 grammes. Les médecins parviennent à l'extraire du ventre de la maman sans abîmer le placenta. Le second jumeau est né fin février, 8 mois, 3 kilos. Alessandro, Andrea et la mamma se portent bien. Autre histoire hors du commun, à la rubrique voleuse de luxe, c'est à New York. Elle s'appelle Anna Sorokin, 28 ans, jugée pour une série de fraudes qui lui ont permis d'amasser tout de même 275 000 dollars. Jeune femme d'origine russe, arrivée à New York en 2016, les poches vides. Au culot, elle se faisait offrir ou prêter nuit d'hôtel, argent, vêtements et faisait les poches des branchés de New York, le Glory.
Elle est entrée dans ma vie avec des sandales Gucci et des lunettes Céline avant que mes 62 000 dollars ne disparaissent. Voilà ce qu'écrit une photographe de Vanity Fair. C'est elle qui a révélé l'affaire au grand public. Celle d'Anna Sorokin, Anna Delvey, comme elle se faisait appeler, la fille d'un chauffeur routier transformé grâce à ses mensonges en richissime héritière. Suffisant pour se faire une place au soleil, elle séjournera dans plusieurs grands hôtels de Manhattan, fréquentera les cercles branchés new-yorkais sans jamais payer, jusqu'à réclamer un prêt de 35 millions de dollars. Son ascension, elle la doit à un culot sans faille, jusque dans sa déchéance, elle qui refusa plusieurs fois de se présenter à son procès. La tenue choisie par sa styliste n'était pas à son goût. Mais son audace ne devrait pas suffire. Anna Sorokin risque 15 ans de réclusion. Depuis un an et demi déjà, c'est entre les murs de la prison de Rikers Island que ses rêves se sont brisés. New York, Loïc Lory, France Inter.
Procès en cours, les producteurs de télévision du côté de Netflix et HBO sont déjà sur le coup. Allez, sans transition, des sandales Gucci au ver de terre. J'ai testé pour vous, puisque le vendredi est de plus en plus le jour de l'écologie. Aujourd'hui, nous parlons du compost. Bonjour Thomas Larabi.
Bonjour Bruno.
Alors, quand on a une grande maison à la campagne, le compost c'est fastoche. En appartement, c'est une autre paire de manches ou de lombriques. Un chiffre, à Paris, en 50 ans, la poubelle des ménages a doublé de volume. La mairie de Paris distribuait cette semaine des composteurs individuels d'appartements. C'est cela que vous avez testé, Thomas?
Oui, on peut ne pas avoir de jardin ni de balcon, cela n'empêche pas d'avoir des vers de terre. Comment? Eh bien avec les lombris compost fournis par la mairie de Paris, un petit chariot vert et gris à 3 étages que Samuel, 29 ans, a dans la cuisine de son appartement depuis juin dernier.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on a des épluchures en bas qui donc se compostent petit à petit. Évidemment, comme ça perd de l'eau, le volume diminue, donc ça met un certain temps à se remplir, même si ça n'a pas l'air très grand. Une fois que c'est vraiment plein, on met le deuxième étage par-dessus, et là on met des épluchures, ce qui attire les vers vers le haut. Et une fois que les 3 étages sont pleins, on peut récolter le compost.
Et alors les bouteilles là, c'est quoi en bas?
Alors, en fait, il y a un petit robinet qui permet de récupérer ce qu'on appelle le thé de compost, le jus de compost. Et ce thé de compost, on peut s'en servir pour arroser les plantes. Enfin, il faut le diluer parce que c'est apparemment assez puissant.
Et est-ce que les lombriques se baladent dans la cuisine?
Les vers de terre ne se baladent pas dans la cuisine, mais on peut les observer. Voilà, tu fais des animaux de compagnie en nombre, ça coûte pas très cher.
Alors, pour tester ensemble l'efficacité de ce tri et dans la perspective du zéro déchet, eh bien, on fait à manger. Et on fait à manger quoi?
Une petite frittata de patates douces avec des échalotes et des endives.
Ça y est, on est à la fin de la tambouille et on met dans le compost toutes les épluchures de patates douces, les restes d'endives, la peau de l'avocat, mais aussi la boîte d'œufs et les emballages en papier biodégradable, avec un tout petit peu de travail en plus.
Bon, là, c'est des grandes épluchures, je vais couper un peu dedans, histoire d'eux, hein, parce que les vers ont des toutes petites bouches. Et ensuite, je les mets directement à l'intérieur.
Donc, il nous reste quoi comme déchets?
Alors, il reste les coquilles d'œufs que j'ai pas mises dedans, et les petites peaux des échalotes, les petites peaux des oignons, parce que c'est des produits qui sont vermifuges, donc évidemment, dans un lombri compost, c'est pas indiqué.
Et ça sent pas mauvais.
Et ça sent pas mauvais du tout. Ça sent la forêt, quoi.
Voilà, quasiment tout est dans le compost, même les emballages. Alors, les Parisiens convaincus par ce test ont jusqu'à ce soir pour commander leur lambris compost gratuit auprès de la mairie de Paris.
Bon, c'est noté, on a presque la recette de la frittata de patates douces en plus. Eux aimeraient éviter la gamelle de fin de saison. Les footballeurs de Lyon, début de la 33e journée de championnat ce soir, ils reçoivent Angers. L'enjeu pour les Lyonnais, c'est de conserver la 3e place du championnat derrière le PSG et Lille. 3e place qui permet d'accéder à la Ligue des Champions, la phase préliminaire. Le problème, Vincent Pellegrini, c'est que les Lyonnais enchaînent les mauvais résultats en cette fin de saison après avoir été en forme au début du printemps.
C'était il y a à peine 3 semaines. Vainqueur à Rennes 1-0, l'Olympique Lyonnais recollait à 1 point de Lille et de cette 2e place directement qualificative pour la Ligue des Champions. C'était en fait le dernier rayon de lumière avant de voir les gros nuages s'accumuler. Une défaite à domicile en demi-finale de Coupe de France face à Rennes va faire basculer la saison de l'OL du côté obscur. Une élimination qui a hérissé le président Jean-Michel Aulas. Alors qu'elle semblait s'imposer, la reconduction de l'entraîneur Bruno Genesio n'était plus acquise, lui qui était vivement contesté par des groupes de supporters. Dans les coulisses, c'est le flou, sur le terrain, c'est la crise. 2 défaites de suite face à des mal classés, Dijon et Nantes, qui ont poussé Bruno Genesio à annoncer lui-même son départ en fin de saison. C'est dans ce contexte pesant que l'OL reçoit ce soir Angers, des Lyonnais sous pression. Si la 2e place semble désormais inatteignable, la 3e place est loin d'être acquise. Saint-Etienne et Marseille ont profité des déboires lyonnais pour se rapprocher du podium.
Un coup d'envoi à 20h45, autre match ce soir en ouverture de la 33e journée, Dijon-Rennes. En tennis, les quarts de finale du tournoi de Monte-Carlo, Nadal et Djokovic sont toujours là. Nadal face à l'Argentin Pelia, Djoko contre le Russe Medvedev. Le tennis sur terre battue et le printemps de Bourges. Voilà 2 repères qui nous disent que les beaux jours arrivent. Au Festival de Bourges, hier soir, Mathieu Culeron, hommage à celui qui a souvent rendu le printemps plus beau encore. Jacques Higelin.
Je ne peux plus dire, je t'aime.
La scène a été avancée pour être au plus près du public. Isia et Arthur H s'avancent pour chanter une chanson de leur père.
Si tu veux que soit la solitude.
Mathieu Amalric lit des textes de Jacques Higelin et une pléiade d'invités interprètent ses chansons. Un grand moment d'émotion pour Ken, le dernier fils de Jacques.
D'entendre les chansons de Jacques chantées par Rodolphe ou par Jeanne Haddad ou par Jeanne Chéral, là, ou par Fred Poulet et Sarah Morcia, par Camille, waouh.
Isia chante la balade pour Isia, un titre qu'elle avait l'habitude de chanter avec son père. Jacques, qui a passé sa vie à chanter l'amour, la mort et la vie.
Il m'a préparé à son départ toute sa vie. Il parle de la mort dans pratiquement toutes ses chansons. Quand mon cœur cessera de battre, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre. Il me disait tout le temps, si t'as peur de la mort, t'as peur de la vie. Et ça, il me l'a chanté, il nous l'a chanté. Et c'est pas parce que son enveloppe n'est plus là qu'il n'est pas auprès de moi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à réaliser qu'il est parti. C'est parce que je le sens près de moi en permanence. Je le vois tout le temps.
Tout se termine par Irradier, la chanson qui a accompagné le cercueil d'Higelin vers le Père Lachaise l'année dernière. Un hommage vibrant qui restera comme le temps fort du printemps de Bourges.
Voilà, Jacques Higelin toujours parmi nous, c'est sûr et certain. Allez, c'est le printemps à Bourges, c'est même presque l'été.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Un après-midi au soleil dans la plupart des régions, une exception tout de même. Les cumulus se sont développés entre le Grand Est et le Nord des Alpes en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. Ils lâcheront localement des averses et ces averses seront orageuses entre les Vosges et le Jura. Prévoyez un peu plus de nébulosité au pied des Pyrénées et attention, le vent d'autant est encore très fort avec des rafales voisines de 80 km/h en pleine toulousaine et jusqu'à 110 km/h vers le Tarn. Côté température, les maximales seront très douces et comprises entre 19 et 27 degrés. Prévoyez 19 degrés à Biarritz et Perpignan, 20 à Toulon, Nice et Bastia. Comptez 21 à Toulouse, 23 à Nancy et Dijon, 24 à Lille, un joli 25 degrés dans la capitale mais aussi à Orléans, Tours et La Rochelle. Et la maximale de 27 degrés est attendue à Limoges et Cognac. Demain matin, le soleil sera souvent de la partie. L'après-midi, vous retrouverez un temps instable avec des averses orageuses sur une large bande centrale, mais aussi du côté des Pyrénées. Et partout ailleurs, l'ensoleillement sera généreux.